Vendredi 8 janvier 2022, il est 13h, le journal c'est avec Reine Fabienne Dotiga. Reine, bonjour.
Bonjour Verdiane, bonjour à tous. À la une de ce journal, désarmement volontaire, une dizaine d'éléments de l'UPC ont déposé les armes jeudi à Ipi dans la Waka. On y revient au début de ce journal. Difficile condition de vie d'une partie des habitants de la Waka. D'après une mission de la coordination des actions humanitaires, des milliers de personnes manquent de nourriture, de soins et d'éducation dans cette localité. De coups de feu pendant la Saint-Sylvestre, des voix continuent de dénoncer ce comportement alors que les autorités et la MINUSCA avaient annoncé des mesures sécuritaires. Football, démarrage de la 33e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun ce dimanche. Le match d'ouverture qui opposera le Cameroun au Burkina Faso sera projeté au Centre culturel Catherine Sama Panza par la Fondation Handicapable Internationale.
Mais d'abord, à la une de ce journal, cette tension au kilomètre 5 dans le 3e arrondissement de Bangui.
Oui, Verdian, deux personnes seraient tuées par des éléments de force de l'ordre dans le secteur. Nous ne connaissons pas encore ce qui est à l'origine de ce drame, mais tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le poste de contrôle qui est proche du commissariat du 3e arrondissement est incendié et les forces de l'ordre se sont retirées au PK5. Pour le moment, un calme règne, mais les activités restent paralysées dans ce grand quartier commercial. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Une dizaine d'éléments de l'UPC ont déposé volontairement cette semaine les armes à Ipi dans la Waka.
Oui, ces éléments se sont rendus aux forces légales dans la ville. Pour Aboubakar Nou, deuxième vice-président de la délégation spéciale de la ville de Ipi, c'est un début de solution pour le rétablissement de la sécurité dans cette partie de la République centrafricaine. Jean-Eudes Bagali.
Selon des sources militaires, ces éléments de l'UPC ont restitué 6 Kalachikov, une lance-roquette, des armes artisanales communément appelées Gomta, ainsi que des munitions. Ils sont pour l'instant à la base des FACA et leurs alliés à Ipi. À en croire les autorités militaires, parmi ces ex-combattants de l'UPC, certains sont d'accord pour être formés, d'autres sont certains sont d'accord pour intégrer l'armée, d'autres sont favorables aux formations afin de réintégrer socialement. Et ces retraits de 10 éléments est néanmoins salué par le deuxième vice-président de la délégation spéciale d'Ipi, Aboubakar Nou.
Je suis parti au niveau de la gendarmerie. Ils ne vont pas dire qu'il faut les attendre. Oui, ils ont reçu des armes au niveau de PK-22 sur la route de Ndachima. Oui, ils sont aussi à PK-22. Je ne sais pas, mais les 10, la 10, c'est une institution. 30, 40, bon, je peux confirmer ça. Il faut qu'ils sortent. Mais de 50, de 60, bon, voilà. Moi, je suis conscient de ça.
Ce désistement de certains éléments de l'UPC dans la Waka intervient après ceux de Baskoto, estimés aujourd'hui à plus de 200 ex-combattants.
Ces sorties des éléments de l'UPC avaient aussi été enregistrées à Mobaï dans la Basse-Koto.
Saleh Ali, l'un des leaders influents du mouvement qui contrôlait la zone de Mboma, a jeté l'éponge au début de la semaine à Mobaï. Les précisions de notre correspondant Maurice Aboubou.
Saleh Ali a été d'abord combattant dans la coalition Seleka avant de rejoindre l'unité pour la paix en Centrafrique UPC d'Ali Darassa en 2014. Sa fidélité envers le chef de l'UPC lui a permis de gravir les échelons pour devenir colonel dans le mouvement. Il a été commandant de zone à Kwango dans la préfecture de la Waka, à Djimbi dans la sous-préfecture de Kembe, à Mboma dans la sous-préfecture de Zangba et dans la sous-préfecture de Mobaï, toujours dans la Basse-Koto. Avant de se rendre le lundi 3 janvier, il était conseiller du chef militaire de la zone de Mboma, connu sous le nom de Ganduru. Son retrait fait suite à la dégradation de ses relations, selon lui, avec Ali Darassa, qui le soupçonnait d'être de connivence avec les forces armées centrafricaines FACA. Ce dernier, accompagné de son aide de camp, a remis un AK-47, un pistolet et 5 chargeurs au commandant des FACA à Mobaï, en présence du commandant de compagnie de la gendarmerie territoriale à Mobaï et du sous-préfet de Zangba. Jusqu'aujourd'hui, près de 200 éléments de l'UPC d'Ali Darassa dans la Basse-Côte ont quitté le maquis pour intégrer le processus du DDRR. Maurice Aboubou, Mobaï, Radio de Kiluka.
Et puis, Rennes, la situation sécuritaire et humanitaire a connu une détérioration significative dans les villages Tagbara et Boyo, situés respectivement à 70 et 130 km au nord de Bombari, sur l'axe Ipi.
C'est ce qui ressort d'une mission de la coordination des actions humanitaires hier dans ces deux localités. Plusieurs milliers de personnes sont privées de nourriture, de soins et d'éducation. La situation humanitaire est alarmante, selon Denise Brown, coordonnatrice humanitaire. En décembre dernier, des violences armées ont poussé plusieurs ménages à quitter leur domicile dans les localités de Tagbara et Boyo.
Près d'une semaine après la Saint-Sylvestre, des voix continuent de s'élever pour dénoncer le silence des autorités suite aux tirs d'armes qui ont fait des victimes dans la capitale.
Pendant la nuit du réveillon du Nouvel An, des tirs d'armes ont résonné dans presque tous les quartiers de Bangui. L'on déplore au moins 3 morts et de nombreux blessés par balles. Comme explique-t-on ces crépitements d'armes malgré les mesures sécuritaires annoncées par les autorités et la MINUSCA? Ogier Obervo Palayawa s'est intéressé à ce dossier.
Les Centrafricains qui espéraient passer un réveillon paisible ont vu Bangui vibrer au rythme d'armes automatiques de différents calibres. Des balles réelles ont sifflé ça et là. Conséquence, plusieurs familles déplorent des dégâts chez elles. Claudia habite le quartier cité Jean 23 dans le 4e arrondissement.
La première balle a percé le plafond et est tombée dans le salon. Nous étions dans la chambre à coucher. J'ai dit que c'est une balle qui est tombée. Mon mari a allumé et l'a cherché et trouvé. La deuxième a perforé le plafond dans notre chambre et frôlé ma jambe sur le lit. Nous avons retrouvé les deux balles.
Kelly, habitant du 2e arrondissement, a frôlé la mort car légèrement touché par une balle perdue au thorax.
J'étais fatigué, couché. La balle a perforé le toit de ma maison et m'a touché. C'est la balle que je vous ai présentée et que j'ai apportée à Radio Ndekeluka.
Dans les hôpitaux, les responsables déplorent une centaine de blessés et au moins 3 morts, dont un enfant de 3 ans. Sur les réseaux sociaux, les internautes avancent des chiffres inquiétants et publient même des photos d'impact de balles perdues. Comment expliquer l'intensité de ces tirs d'armes pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, alors qu'un couvre-feu est en vigueur et des mesures sécuritaires robustes ont été annoncées? Joseph Binoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, pointe l'irresponsabilité des hauts responsables des forces de défense et de sécurité.
Ça, c'est des actes totalement irresponsables. Nous ne savons pas comment cela a pu se produire. Et donc, au niveau de la Ligue centrafricaine, nous demandons que le gouvernement demande aux hauts responsables de l'armée qui avaient mis des troupes consignées comment ces choses-là ont pu se passer. Et puis, pourquoi ces choses-là se sont passées et puis qu'on a pu arrêter les auteurs.
Si les autorités opte pour le silence, la MINUSCA de son côté salue la sécurisation de cette fête malgré les crépitements d'armes. Vladimir Motero, porte-parole.
Même si on peut se réjouir des résultats de la sécurisation, notamment en termes de prévention d'attaques par des groupes armés, il faut néanmoins regretter ces tirs, espérant que les enquêtes permettront de découvrir qui sont les responsables, d'autant plus qu'il y a un bébé qui a perdu la vie et il y a énormément de blessés.
La Saint-Sylvestre de cette année a été particulière, vu l'intensité des tirs d'armes dans la ville de Bangui.
Dans la suite de cette édition, à Bria dans la Haute-Coteau, la viande de bœuf devient rare sur les marchés.
Et le prix ne cesse de grimper en cause de l'insécurité qui empêche la libre circulation des éleveurs dans la zone. À Bria, Gasmala Mustafa.
C'est depuis plus d'un mois que les consommateurs de la viande de bœuf font face à la rareté sur les marchés de la ville. Même si on en trouve, le prix est cher et cela bouleverse un peu le budget alimentaire établi mensuellement par des familles, comme le souligne ici Fanta, une mère de foyer.
Quand tu vas au marché et que tu achètes la viande de 1000 francs, ça ne peut pas suffire toute la famille. Même pour 3000 francs, c'est insuffisant. Comparativement à celle de 1000 francs à l'époque. Auparavant, quand on achetait la viande de 2000 francs, on pouvait manger matin, midi et soir. Aujourd'hui, même la viande de 5000 francs ne suffit pas.
Pour Jeannot Ndjinzapou, président des bouchers de la ville de Bria, cette pénurie est due au départ des éleveurs à la recherche de pâturages vers les zones éloignées.
Auparavant, on achetait un bœuf ici à Bria à 200 voire 250 000 francs. Mais pour le moment, avec la transhumance, pour avoir un bœuf, il te faut 400 voire 500 000 francs CFA. Ce qui fait qu'il nous est difficile de fournir de la viande de bœuf à la population de Bria pour qu'elle puisse en manger normalement en ce moment.
En plus de la conduite du bétail vers les pâturages, certains éleveurs ont peur de venir à Bria à cause de l'insécurité pour trouver une solution à cette carence de la viande de bœuf à Bria. Philippe Adoum, chef service de l'élevage de la Haute-Coteau, promet organiser une rencontre irrelative avec les autorités locales sans pour autant donner une date.
Avec le commissaire, le commandant de brigade ainsi que le chef de détachement de FACA, on va mettre en place une stratégie pour bien sécuriser les rayons de l'abattoir et du parc et aussi les éleveurs qui veulent amener leur bétail au niveau du marché à bétail, qu'ils soient rassurés qu'il ne sera rien inquiété dès qu'ils seront ici.
Même si le ministre de l'élevage sillonne depuis quelques jours certaines villes de province pour encourager le passage pacifique des bétails vers les pâturages, à Bria, rien n'est encore fait. Les éleveurs se disent pour l'instant empêchés de circuler librement. Bria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
L'actualité, c'est aussi la Fédération syndicale du personnel de santé de Centrafrique qui suspend provisoirement la grève qu'elle projette observer à partir d'aujourd'hui.
La Fédération syndicale qui exige du gouvernement près d'un milliard pour la prime de lutte contre le Covid-19 met en avant la volonté politique du gouvernement de leur verser cette prime ce mois-ci. Par conséquent, les syndicalistes souhaitent privilégier le consensus. C'est ce qu'a indiqué Juvenal Constantin Dombetti, secrétaire fédéral du personnel de la santé. Il est au micro de Jean-Fernand Kouina.
En principe, cette grève devait démarrer demain matin. Et fort heureusement, le Premier ministre Henri-Marie Dandra a réagi pour transmettre un message à l'intermédiaire du ministre du Travail, le ministre et conseiller en charge du Travail, le directeur de cabinet des finances et son homologue d'affaires publiques. Dans ce message, le Premier ministre a pris l'engagement ferme de payer ses primes dans ce mois de janvier. Vous savez, compte tenu de la situation de notre secteur, nous avons pris acte de l'engagement du gouvernement. Donc toutefois, nous avons suspendu que la grève. Si d'ici le 1er février 2022, ces primes ne sont pas payées, cette grève sera reconduite automatiquement.
Ces primes s'élèvent à combien?
À un montant de 999 400 quelques.
Actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi est rentré hier à Kinshasa après une tournée de terrain dans le Grand Kasaï.
Son déplacement a duré près de 2 semaines. Cela a permis au chef de l'État congolais d'affronter les réalités de la vie quotidienne des populations dans les 5 provinces de l'espace Kasaï. L'eau et l'électricité font cruellement défaut. Les routes sont impraticables, voire inexistantes. Félix Tshisekedi dresse un constat amer dans les 5 provinces du Grand Kasaï. La page sport de cette édition, une présentation de Igor Diskin-Sinapai. Igor, bonjour.
Bonjour Len, bonjour à tous.
Football, il ne reste que 2 jours pour le démarrage de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun.
Le match d'ouverture est prévu ce dimanche 9 janvier et opposera le Cameroun, pays organisateur, au Burkina Faso, au stade Olimbé, à quelques kilomètres de Yaoundé. Cette Coupe d'Afrique des Nations se déroule du 9 janvier au 6 février prochain. La compétition se jouera dans 5 villes, Yaoundé, Douala, Limbé, Bafoussam et Garoua, et dans 6 stades au total, dont deux dans la capitale Yaoundé.
Et à propos de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Fondation Handicapable Internationale va projeter le match d'ouverture de la CAN ce dimanche.
L'activité est prévue au centre culturel Catherine Samba-Panza, situé à proximité du complexe sportif Barthélemy Bouganda, en face de l'ENAM. Cette projection se fera dimanche à 17h à l'occasion du lancement officiel des activités de la dite fondation. L'artiste et chanteur handicapé Habib Maïguélé, alias Bitman, promoteur de cette fondation, appelle le public à venir massivement assister à ses activités culturelles et sportives. Il l'a dit au micro de Bienvenue Gbelo.
Il y aura la projection directe du lancement de la CAN. Il y aura les prestations artistiques, il y aura mon spectacle, le spectacle d'autres artistes invités aussi. Si j'ai mis le lancement officiel de cette fondation ce jour-là, c'est pour passer un message fort, très fort. La fondation des personnes qui ont mobilité réduite, qui projette un match de valide. Nous, on n'a pas ces moyens-là, ces forces-là pour jouer au football. Certes, on a notre sport aussi, mais c'est des infirmes, des handicapables qui projettent, qui vous invitent à venir suivre un match de football. Quand on dit football unit le peuple, ça nous unit, nous, les valides et tous ensemble, quoi. C'est de venir passer un bon moment ensemble, vivre ce que les valides peuvent faire pour les infirmes et ce que les infirmes peuvent faire pour les valides aussi. Nous allons commencer les activités à partir de 10h jusqu'à 20h.
Changeons de discipline, Igor, handball, bientôt le Challenge Trophy à Brazzaville au Congo. La sélection des juniors de la RCA se prépare toujours à Bangui.
L'équipe centrafricaine s'entraîne du lundi au mercredi, chaque samedi depuis le 6 décembre dernier. Ça fait déjà un mois que les centrafricains se préparent dans des conditions difficiles comme dans le passé. Certains anciens fauves et certains supporters craignent que la prise en charge devienne encore un problème.
Voilà tout pour ce journal en français sur Radio Ndeke Luka. Restez branchés pour la version en sango.